Bonjour à tous. Aujourd'hui 10 novembre, Sylvie Meyer, biologiste et adjointe à la mairie de Brest, et Jean-Pierre Caldier, dirigeant d'entreprise et économiste, sont venus parler d'économie équitable à la radio à l'occasion de la conférence donnée à 10 aujourd'hui même sur ce thème. À ce sujet, ils ont écrit avec 9 co-auteurs le guide de l'économie équitable que l'on peut trouver aux éditions Gabriel Péri. Bonjour.
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 Avant de passer aux questions de fond, je serais assez intéressé de savoir comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'économie équitable.
Eh bien, j'étais personnellement très impliquée sur les questions d'environnement d'abord, et puis évidemment sur le développement durable. J'ai participé au sommet de Rio et de Johannesburg. Mais à un moment donné, j'ai pensé qu'il y avait des limites si on ne commençait pas à regarder les questions de l'économie à l'intérieur de ce développement durable. Il ne suffit pas de s'intéresser à l'environnement, il faut aussi s'intéresser à l'économie. On voit bien aujourd'hui qu'une économie mal conduite qui nous a conduite à la crise est aussi facteur de pollution, facteur de gâchis. Et donc, il fallait regarder comment faire une économie équitable.
D'accord.
Et puis, on a fini par se croiser avec Sylvie sur cet intérêt-là, étant donné que j'ai eu la chance de faire des études plutôt dans la branche économique. Et on a allié nos deux compétences.
Alors, j'ai joué au Candide. Qu'appelle-t-on économie équitable ?
Alors, l'économie équitable, c'est une notion qui a son théoricien. Dans notre ouvrage, il y a Maurice de Caillot qui a écrit sur l'économie équitable. Et nous, on essaye de le traduire concrètement, puisque lui, c'est un économiste plutôt théoricien. Qu'est-ce que ça veut dire économie équitable ? C'est une économie dans laquelle nous plaçons l'économie sociale et solidaire, qui a des règles de fonctionnement très différentes de l'économie classique, je dirais. Le commerce équitable, qui peut être non seulement sud-nord, mais aussi sud-sud et nord-nord. Et actuellement, ça se développe, et notamment dans le milieu agricole, avec les circuits courts. Ensuite, tout ce qui concerne la production, par exemple dans l'économie sociale, les sociétés coopératives et les sociétés coopératives de production. Et puis, les financements. Et il y a dans l'économie sociale des banques, puisque en France, 60% des dépôts sont placés dans des banques coopératives et mutualistes. Donc nous avons considéré que c'était une base pour une économie équitable.
Effectivement, ça peut surprendre ceux qui nous écoutent lorsqu'on dit que 60% des dépôts des Français sont dans des banques de l'économie sociale, parce qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur des choses et citer les noms. Il y a dedans la Banque Populaire, il y a la Caisse d'Épargne, il y a le Crédit Coopératif qui est plus virtueux que peut-être que les autres, il y a le Crédit Agricole
et le Crédit Mutuel.
Et le Crédit Mutuel. On place dans cette économie équitable, il devrait y avoir aussi les mutuelles, mais on sait aussi qu'un certain nombre de mutuelles ont totalement dérivé, bien que pratiquement un Français sur quatre adhère à une mutuelle
d'assurance. Assurance automobile ou assurance santé. Hein, la caractéristique française, c'est que beaucoup d'assurances de santé et automobile, et de maison, enfin toutes les assurances, sont dans l'économie sociale. Donc c'est une bonne base pour une économie équitable.
Et pour fixer les idées, si on prend ces grandes banques et ces grandes mutuelles, il y a 150 millions de Français qui sont clients de ces banques ou de ces mutuelles.
Ils peuvent être clients
à plusieurs. C'est pour ça que ça fait 150 millions, mais c'est pour faire voir que ce n'est pas une petite affaire et qu'effectivement, on a tous la possibilité de faire quelque chose dans ces mutuelles et dans ces banques.
Alors peut-être on peut parler de la caractéristique de l'économie sociale. L'économie sociale, c'est une économie dans laquelle chacun compte pour un. Une personne égale une voix. Concrètement, ça voudrait dire que dans les assemblées générales des agences bancaires, chacun compte pour un, peut se présenter, peut proposer une motion et que chacun peut voter. C'est une économie où il n'y a pas d'actionnaires, mais des sociétaires. Ces sociétaires, quel que soit leur apport d'argent, donc chacun compte pour un. Et en plus, on crée des réserves impartageables. On ne peut pas partager ces réserves. Les sociétaires repartent, s'ils partent de la société, avec la même somme d'argent qu'ils sont venus. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de cotation en bourse. L'argent gagné, les bénéfices qui sont faits, ils sont partagés entre les réserves, l'investissement dans la société en question et un intéressement des salariés. Ce sont généralement des entreprises, que ce soit ces banques ou ces assurances ou les sociétés coopératives, où il y a des formes d'associations qui intéressent le salarié et qui font... Alors, ce n'est pas si vrai dans les banques, mais c'est vrai dans les sociétés scope. Il y a les écarts de salaire entre les dirigeants qui sont élus et les salariés est assez faible. Donc ça nous paraît être une bonne voie à prendre, c'est des sociétaires, des salariés sociétaires qui ont leur mot à dire sur la gestion, sur les orientations, sur les stratégies de ces entreprises. Par exemple, Chèque Déjeuner, c'est une entreprise coopérative dans laquelle les salariés ont leur mot à dire sur la gestion, l'orientation. Est-ce que, par exemple, on va aller investir à l'étranger ou pas? Est-ce qu'on va diversifier dans quel et quel domaine? Voilà ce que c'est l'économie sociale. Et donc, c'est une bonne base pour modifier l'économie dans laquelle aujourd'hui, c'est des actionnaires anonymes et qui ne s'intéressent pas forcément aux motifs ou à la production de l'entreprise dans laquelle ils ont placé leur argent. Ce qui les intéresse, c'est essentiellement les profits qu'ils vont en tirer.
Si j'ai bien compris, votre livre parle de faits concernant le monde de l'entreprise, pointant tous les avantages des entreprises de type mutuel ou coopérative. Pensez-vous que la généralisation de ce type d'entreprise pourrait contribuer à une meilleure efficience économique du système tout en le rendant plus humain ?
Nous, il nous semble que cette économie sociale, le commerce équitable, Sud-Nord et Nord-Nord, sont des éléments d'une économie alternative. Des éléments, parce qu'évidemment, par exemple, on ne va pas se passer des services publics dans une économie alternative. Au contraire, on va les développer. Donc, voilà, par exemple, on a cette possibilité. Nos réflexions, elles s'intéressent aussi aux questions environnementales et notamment à tout ce qui concerne l'agriculture, tant dans ses aspects, comment préserver la terre des pollutions, comment préserver la terre des spéculations, et faire qu'il y ait réellement les terres nécessaires pour nourrir les personnes le plus près possible du lieu où elles habitent, étant donné le problème du pic pétrolier, le fait qu'on va peut-être être sans pétrole, qu'il faudra réfléchir à réorganiser la vie et donc relocaliser l'agriculture. On pense d'ailleurs aussi qu'il faudrait relocaliser l'industrie et les productions qui devraient se faire beaucoup plus près. Il n'y a pas de raison d'échanger des choses qu'on peut faire chez soi. Et également le fait de faire des circuits courts. Alors on sait que dans des régions comme la vôtre, ça existe, les paysans sont actifs pour faire des circuits courts. De manière, alors ça ne veut pas dire qu'on va supprimer toute la grande distribution qui aujourd'hui, on voit bien, est nécessaire à la vie quotidienne. Mais augmenter le nombre de gens qui se servent directement auprès de producteurs ou de fournisseurs, créer un rapport de force qui imposera à la grande distribution notamment d'autres pratiques que celles qu'elle a aujourd'hui, qui font tout à la fois pression sur les paysans et qui grugent la plupart du temps le consommateur.
Alors on nous dit souvent c'est impossible de faire plus de circuits courts. On a par exemple la référence du Japon, où au Japon il y a 16 millions de Japonais qui sont en circuit court. L'équivalent en France, ça représenterait 8 millions. Et peut-être aujourd'hui, il y a 300, 400 000 Français seulement en circuit court. Donc on voit que tous ensemble, on pourrait faire changer ces choses-là.
Est-ce que c'est possible d'envisager qu'une entreprise de type capitalistique s'aperçoive de sa nocivité et décide, pour le bien de tous, de se transformer en société coopérative ? Est-ce que ça peut s'envisager ?
Oui, ça peut s'envisager. Et je dirais même que là aussi, on peut considérer qu'en France, nous avons un peu de retard, puisqu'il y a à peu près 30 000 salariés qui sont dans ces sociétés coopératives de production en France, qui aujourd'hui ne s'appellent plus société coopérative de production, mais société coopérative et participative. Donc voilà l'esprit. Et si on se compare aux Allemands, en Allemagne, il y a plus de 300 000 personnes. Donc là aussi, on a un peu la même idée de dire il y a au moins pour 260 000 emplois de plus. Et en ce qui nous concerne, nous faisons une proposition. Il va y avoir à peu près 700 000 patrons de petites PME qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Ça représente plus de 3 millions à 4 millions de salariés. Et nous allons proposer à nos élus de voter une nouvelle loi qui pourrait donner un droit de préemption aux salariés, c'est-à-dire qu'en cas de cession de l'entreprise, ils puissent avoir le droit, les premiers, de dire « nous sommes concernés par la vente de l'entreprise, nous souhaitons la racheter, mais à condition effectivement de la racheter en société coopérative participative ».
Et vous savez, ce qui empêche souvent les gens d'être vertueux en matière de commerce, c'est souvent de se dire que si moi je suis honnête, Tous les gens qui ne le sont pas vont me bouffer tout cru. Par exemple, si on augmente pour des raisons de justice sociale les salariés français, les Chinois vont nous ratiboiser.
Est-ce que les sociétés coopératives peuvent être aussi compétitives que des sociétés ?
Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'elles sont plus compétitives. C'est-à-dire que dans l'ensemble, les salariés sont payés beaucoup plus cher, disons 20 à 25% plus cher, dans une société coopérative aujourd'hui.
De production.
Donc c'est une autre façon de travailler, c'est une autre efficacité.
Ils sont payés plus, malgré tout, ils arrivent à se battre dans la compétition internationale.
Ils sont plus pérennes, les sociétés tiennent mieux le choc et elles ont de très bonnes réussites. Elles peuvent investir, par exemple il y a pas mal de sociétés d'imprimerie qui sont ultra modernes parce qu'elles investissent. Et elles investissent non seulement dans le matériel, mais elles investissent aussi dans la formation des personnes. Et une des choses que je trouve aujourd'hui, le gouvernement n'a pas très bien compris, et le MEDEF associé à lui n'a pas non plus très bien compris, c'est que le bien-être des gens au travail, leur capacité, leur formation, fait qu'ils travaillent mieux. Et qu'à partir du moment où ils travaillent mieux, il y a moins de gaspillage et que l'entreprise réussit mieux. C'est, à mon avis, un des grands objectifs qu'on devrait avoir, c'est le bien-être des gens au travail. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, quand on dit les problèmes du dumping, bon, d'abord, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites à travers la loi, donc choses égales pour tout le monde. Ensuite, nous pensons qu'il faut une certaine protection nationale ou européenne. Par exemple, à l'intérieur de l'Europe, il était prévu des calendriers d'importation, c'est-à-dire on n'importe pas les tomates d'Espagne ou du Maroc au moment où on est en pleine production française. Ça paraît logique. Or, on ne le fait pas aujourd'hui. Si on faisait des protections de ce type, des préservations vis-à-vis de questions environnementales, parce que souvent, quand vous payez moins cher les gens, c'est parce que vous n'avez par ailleurs pas de soucis de l'environnement ou de la qualité des produits. Donc, à qualité de produit égale, à qualité environnementale égale, on peut s'en sortir. Par ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Chine, nous revenons de Chine, nous avons passé 24 jours à la recherche du développement durable en Chine. Eh bien, nous avons constaté qu'il y a un mouvement d'augmentation des salaires. L'État impose aux sociétés privées d'augmenter les salaires et que nous allons nous retrouver face à des gens qui ont le même niveau de vie que nous.
Pas tout de suite.
600 millions. La moitié des Chinois ont le même niveau de vie que les Européens. Aujourd'hui, déjà. Et ça galope. Donc, même niveau de vie ne veut pas dire même salaire. Hein. Et donc, ces questions-là, elles disparaissent à un moment donné. D'autant plus que quand ils ont le même niveau de vie, ils vont se tourner vers leur demande intérieure. Donc, on aura moins la pression, on a déjà moins la pression de produits chinois chez nous. Notre problème, c'est de reproduire chez nous, parce que nous avons abandonné beaucoup de productions, dont certaines, ce ne sont pas les Chinois qui les font, mais les Allemands ou les Américains. Je pense machine à commande numérique, je pense à tout ce qui est dans le domaine du médical. Nous avons abandonné. Et nous n'avons pas abandonné pour les Chinois. Nous avons abandonné pour nos voisins européens. Donc il faut des règles nouvelles, que ce soit dans l'agriculture. Par exemple, les paysans du monde réclament de ne pas être dans l'OMC. L'agriculture ne doit pas faire l'objet de marchés spéculatifs.
Organisation mondiale du commerce.
On ne peut pas accepter que la nourriture fasse l'objet de marchés spéculatifs. Et je reviens du coup au circuit court. L'intérêt d'un circuit court comme une AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, c'est que le prix se forme non pas en fonction de l'abondance de poireaux ou non sur le marché, mais en fonction de ce que ça a coûté aux paysans et de ce qu'il lui faut pour vivre. Et à ce moment-là, on devient une force importante de formation des prix en dehors de la spéculation.
Mais alors, votre livre est-il une étude théorique ou un livre proposant des ébauches de solutions ?
Alors, le livre lui-même n'est pas un livre de propositions. Il y a des propositions, mais il y a une description des faits. Si vous voulez, nous affirmons qu'une économie équitable, une économie différente est possible. Et pour pouvoir affirmer ça, nous avons étayé par un certain nombre de faits. Des faits, mais aussi des historiques. Par exemple, l'histoire du commerce équitable. Par exemple, l'histoire comment on est allé du GATT à l'OMC. Donc, si vous voulez, notre livre est tout à la fois, on peut dire presque un manuel pédagogique sur l'économie, sur le commerce, la production, ce qui existe en matière d'économie sociale, ce qui existe au niveau des échanges internationaux. Et les différents auteurs qui nous ont accompagnés dans ce livre, à travers un séminaire, donnaient leur opinion sur comment faire autrement. Ce qui existe et comment faire autrement.
Oui, ou en soulevant les contradictions, parce que c'est pas parce qu'on fait une proposition que c'est pas contradictoire par rapport à quelque chose d'autre. Et je crois que ce qui est important, c'est de dire qu'à partir du livre, en fait, on est rentré dans une aventure à laquelle on ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'on est passé dans un cycle de conférences, des cycles de rencontres, des présences dans un certain nombre de congrès, soit français, soit internationaux, et que petit à petit, ça nous a donc permis de rentrer, je dirais, dans des actions concrètes. Exemple d'action concrète, il y a eu une opération qui a été la fusion des banques populaires avec la Caisse d'épargne. Ça a complètement changé le visage de la banque française et nous sommes intervenus jusqu'à aller à faire des propositions à un certain nombre d'hommes politiques pour essayer d'amender les textes proposés. Cette fusion s'est faite par la loi et donc voilà, donc ça amène à faire un certain nombre de propositions. On disait tout à l'heure qu'il y a 5 ans, on ne parlait pas de commerce équitable Nord-Nord. Avec un certain nombre d'exemples, on est arrivé à faire évoluer les choses. Les circuits courts, vous avez eu un plan de circuits courts en France. C'est le seul pays au monde où il y a un plan de circuits courts
gouvernemental.
Ça vient parce qu'on a mené des actions avec les syndicats agricoles plus les syndicats salariés. Et le gouvernement a dit, on ne va pas se laisser déborder, donc on va avancer. Et j'engage toutes les personnes qui ont des responsabilités à aller à la préfecture ou à la chambre d'agriculture demander où est le plan de circuit court dans la Drôme.
Petite mise au point, même si on n'en parlait pas, nous avons dans la Drôme une entreprise, Giants pour ne pas la citer, qui déjà respecte suffisamment ses salariés pour pratiquer le commerce Nord-Nord. Justement, vous parliez alors des hommes politiques. À votre avis, en ce moment, ils sont poussés par une crise qui peut être bénéfique puisque ça nous force à avancer. Est-ce qu'ils sont sensibles aux arguments que vous avancez? Est-ce que vous avez l'impression que ça vient? Ou est-ce qu'il faut attendre, comme le disait quelqu'un, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est l'erreur qui meurt. Il faut attendre encore une génération avant qu'on passe vraiment à autre chose.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, qu'il s'agisse des dirigeants de la grande distribution ou des dirigeants des partis politiques, c'est le peuple qui les pousse et pas le contraire. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a un certain nombre d'exigences qui naissent. On voit bien avec le mouvement des retraites. Les gens ne veulent plus qu'on leur raconte des salades, ils veulent du concret pour changer, pour avancer dans le sens du progrès à un moment où tout, au niveau technique, scientifique et tout ce qu'on veut, pousse à améliorer le sort des personnes, des hommes et des femmes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui s'intéressent de plus en plus à cette économie sociale. Et je pense notamment aux partis de gauche qui disent « on veut changer les choses, on veut plus du tout marcher ». Mais on ne veut pas non plus du tout État. On a vu ce que ça donnait dans certains pays totalitaires. On ne veut pas ça. Donc il faut des solutions alternatives. Et parmi les solutions alternatives, l'économie sociale, c'est un des éléments. Le commerce équitable, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un élément du puzzle. Et je dis du puzzle anticapitaliste. Parce que là, on va dans un sens différent du capitalisme. Donc oui, il y a des personnes qui s'y intéressent. Et d'ailleurs, au moment des élections, des précédentes élections régionales, qui viennent
l'année dernière.
Il y a eu un mouvement de l'économie sociale dans lequel nous étions partie prenante, qui a rédigé un appel aux candidats au régional pour leur dire « Engagez-vous à soutenir, à développer, à faire la promotion. » Et nous avons obtenu, en tout cas nous, entre autres nous avons obtenu la signature d'un très grand nombre de têtes de liste de listes de gauche qui ont dit oui, ce sont des solutions et au niveau régional, on peut faire la promotion de ces solutions, on peut soutenir l'économie sociale, on peut créer des fonds régionaux qui permettent de leur donner des outils communs, de faire en sorte que les nouvelles entreprises puissent avancer, etc.
Donc pour répondre à votre question, on peut dire que les hommes politiques, quelque bord que ce soit, parce qu'il y a une exception en France qui est la région Alsace, dans les couleurs politiques des régions, et même la région Alsace a pris des engagements. Et je dirais qu'à partir de ça, maintenant, il revient aux citoyens de dire « Vous avez pris des engagements concernant un nouveau type d'économie, l'économie sociale et solidaire. Bien, voyons comment vous les tenez et rendez-nous des comptes. »
Vous maîtrisez très bien votre sujet, pas moi. Si vous deviez des mesures phares, alors trois mesures phares pour faire en sorte de changer?
Je dirais parmi les mesures phares, la première mesure, c'est de faire en sorte que le commerce français et européen devienne équitable à travers un certain nombre de critères obligatoires. Préfinancement des commandes, juste prix, donc ça sort un petit peu de l'économie spéculative. Ça peut être la première chose, c'est le commerce équitable.
Je rajouterai la deuxième mesure qui serait nécessaire de prendre, c'est donner quelques modifications législatives pour que les sociétaires, tous les Français sociétaires de mutuelles ou de banques, participent. On ne va pas rendre le vote obligatoire, mais pratiquement, il faut vraiment arriver à ce que le citoyen, là où aujourd'hui il n'y a besoin d'aucun texte, on refasse jouer les règles de décision, une personne, une voix, dans les banques et dans les mutuelles. Et pour ça, je dirais qu'il y a une troisième mesure qui serait nécessaire, c'est de mettre en place partout, dans chaque territoire, dans chaque commune, dans chaque agglomération de communes, on met en place deux ou trois clignotants, des chiffres clés, qui sont par exemple ce qu'on appelle nous l'indicateur de terre nourricière, c'est-à-dire de savoir si sur le territoire il y a assez de terres cultivables pour nourrir la population ou pas, qu'on sache si on est à 100%, si on est excédentaire ou si on manque de terres, comme dans toute la bordure méditerranéenne de la France. Et puis il y a un deuxième indice qui nous tient à cœur et qu'on a commencé à mettre au point par département, c'est savoir si sur un département il y a plus de dépôts d'argent des gens. Comment se situent les dépôts qui se font de l'argent des citoyens par rapport à l'argent qui est reprêté sur le département. Et on s'aperçoit bien souvent que, notamment dans votre secteur, sur la Drôme, pratiquement, on est aux alentours de 0,75%, ce qui veut dire qu'il y a 25% de l'argent qui est collecté qui, en fait, s'en va dans d'autres départements pour faire vivre l'économie ailleurs.
Ben, ça veut dire que nous appliquons la péréquation, nous sommes solidaires.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Mais en même temps, il y a dans votre département des besoins pour faire du logement social, pour installer des jeunes agriculteurs.
Pour éviter qu'il y ait des pertes de terres agricoles, on a entendu parler. Donc il faudrait de l'argent à ce niveau-là pour investir.
Et ça, ce qu'on peut dire, c'est que les élus territoriaux, ils ont un rôle à jouer. Parce que si un élu territorial, un maire, dit à ses concitoyens dans son bulletin qui atteint tout le monde.
Les conseillers municipaux, on peut mettre tout le monde.
Le mois prochain, je vais aller participer avec vous à votre assemblée générale de votre banque locale et nous allons poser les questions sur où est-ce que l'argent est placé. Est-ce qu'il va dans les multinationales des grands départements français, Paris, sa banlieue riche et quelques autres? Ou bien est-ce qu'il va servir dans notre territoire et voilà nos besoins?
Ah oui, pour qu'il y ait des circuits courts aussi dans l'argent, c'est-à-dire que l'argent local serve localement et non pas à irriguer les fonds de pension américains.
Tout à fait.
D'accord. Oui, parce que vous êtes solidaire avec les fonds de pension américains, c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure.
Effectivement. Votre livre, édité par la Fondation Gabriel Péri, vous permet de transmettre vos idées. Mais est-ce que vous pratiquez le lobbying et par quelle structure?
Voilà. Alors effectivement, ce qu'on a constaté, on a fait une constatation. Hélas, il y a eu un sondage. Et dans ce sondage, quand on a demandé aux Français, en disant aux Français comment les choses pourraient changer. Donc elles ont mis en avant-dernier les syndicats et en dernier les partis politiques. Donc je ne fais pas de critique, je dis simplement, il faut que les gens à qui nous avons fait confiance en leur donnant des mandats, il faut qu'ils réfléchissent. Par contre, en premier, ils ont marqué les groupes de lobbying. Très modestement, nous avons décidé de créer une structure plutôt informelle qui s'appelle AP2E, Agir pour une économie équitable. Et à partir de cette structure, nous mettons le maximum de personnes en relation. Nous essayons de rassembler au maximum, quelles que soient les opinions de chacun, parce que nous pensons que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Et puis après, chacun peut repartir avec ses idées, son militantisme. Et nous avons mis aussi une règle importante, c'est qu'on a droit de faire des critiques objectives, mais à chaque critique, on doit sortir chaque critique d'une proposition. Voilà des méthodes qui nous paraissent efficaces pour pouvoir dialoguer, avancer,
et
puis construire. Et aujourd'hui, nous avons commencé à rentrer en contact avec tout le mouvement Internet, notamment tous ces réseaux que l'on appelle les réseaux sociaux, parce que là, il y a des milliers de personnes qui font transparaître souvent leurs inquiétudes et leurs besoins d'agir différemment pour faire changer les choses.
Est-ce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on ne sait pas comment le remplacer? Vous sembliez dire qu'on ne peut pas faire de critique sans proposition.
On a tous les droits, et puis on n'est pas dans des règles. Mais simplement, vous savez, il y a des gens qui sont toujours, c'est ce que j'appelle les pour ce qui est contre et les contre ce qui est pour.
Oui.
C'est pas ça qui fait systématiquement avancer les choses. Donc je crois que c'est pour une façon de dire qu'il faut se mettre en route pour construire. Pour construire, et construire, c'est faire des propositions. Bien souvent, on arrive à de nouvelles propositions qui ont aussi de nouvelles contradictions. Hein. Mais il faut marcher, puisqu'on souhaite, je pense, la majorité aujourd'hui, ce qui ressort bien, y compris avec le taux d'abstention dans les élections politiques, on peut dire.
Et locales.
Et locales. Mmh. Bon, je crois que les gens, ils ont voté. Les gens, ils disent bien qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il faut faire autrement, qu'il faut chercher de nouvelles voies. Et je crois aussi que le fait de ne pas aller... se faire entendre par un vote, c'est aussi une façon de dire qu'ils veulent la parole.
Très bien. Donc, est-ce que vous souhaiteriez donner vos coordonnées s'il y avait des gens qui voulaient se connecter avec vous? Il y a un petit mail?
Oui, un petit mail. Donc, AP2E, AP2 en chiffre E comme Ernest, @orange.fr. Donc, ça, c'est une façon de nous... Et puis, sinon, il y a une façon toute simple, c'est de taper AP2E ou Agir pour une économie équitable sur n'importe quel moteur de recherche. Et on va pouvoir retrouver nos différents sites, le site général, et notamment nos carnets de voyage en Chine, ce qui permettra de peut-être à un certain nombre de se faire une opinion de la Chine, leur opinion à travers de faits objectifs.
Sylvie Meyer et Jean-Pierre Caldier, merci beaucoup.
Merci et de nous avoir reçus dans votre radio locale et bon succès à votre radio.
Oui, on n'en est qu'au début.
À votre radio, ben, il faut un début à tout et puis surtout... bon succès aux citoyennes et citoyens de cette région qui ont l'air de faire pas mal de choses pour faire évoluer déjà leur secteur et à partir notamment de l'expérience de Terre de Liens qu'on a vue, vraisemblablement déborder, donner des idées à la France et peut-être même à l'Europe.
Très bien, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.